Il était l'un des personnages du volet français de l'affaire Epstein. Il a été retrouvé mort chez lui. Daniel Siad, sa fonction, recruteur de mannequins, tout ce qu'il y a de plus légal. Mais voilà, la version de plusieurs jeunes femmes est bien différente. Certaines l'accusent de viol, d'autres de les avoir livrées à Jeffrey Epstein pour que le financier se livre à ses crimes sexuels. Daniel Siad a toujours nié, il ne pourra plus ni parler, ni être inquiété. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois une journaliste, autrice d'une grande enquête sur cette affaire pour le magazine Society, Emmanuelle Andréani. Elle s'est entretenue avec Daniel Siad, homme qu'elle décrit comme un fantôme, si difficile à saisir. Elle me raconte pourquoi et elle m'explique ce que sa mort change à l'enquête. Que ne saurons-nous jamais et que peut-on encore savoir? Car l'affaire suscite sans cesse de nouvelles interrogations, parfois aussi des thèses complotistes. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. Daniel Siad est retrouvé mort chez lui, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris, ce lundi 20 juillet. Il avait 69 ans. On ne connaît pas les circonstances exactes de sa mort. Une enquête est en cours, une autopsie doit être réalisée. Mais ce décès soudain bouleverse une autre enquête, plusieurs enquêtes même. Celle liée à l'affaire Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain, prédateur sexuel, mort en prison en 2019. C'est au mois de février 2026 que le nom de Daniel Siad apparaît dans les médias. Il fait la une de journaux suédois, sud-américains, néo-zélandais, norvégiens, polonais, catalans, tunisiens. Il faut dire que l'homme a pas mal voyagé. Né en Algérie, il a émigré en Suède dans les années 80 et dispose d'un passeport français. Lorsque l'on met le nez dans les dossiers mis en ligne par la justice américaine en lien avec l'affaire Epstein, le nom de Daniel Siad apparaît plus de 2000 fois. En 2014, un SMS est envoyé pour échanger son numéro de téléphone avec celui du milliardaire. Puis pendant 4 ans, ils ont de multiples échanges, par mail notamment.
Anybody in Sweden?
Du monde en Suède? Demande Epstein début 2014. Quelques mois plus tard, autre conversation, Siad lui écrit:
What do you think about Camilla?
Que penses-tu de Camilla? Et le même mois, il envoie
26, but she look 18.
26 ans, mais elle en paraît 18, profil très intéressant. Les messages sont souvent sur le même thème, des années durant. En 2018, Epstein écrit par exemple au sujet d'hôtesse présente à un grand prix de Formule 1.
You showed me the best of these. They are 26, 29.
Tu m'as montré les meilleures, elles ont 26, 29.
Not for me, at all.
Pas pour moi, du tout. Il y a aussi des échanges avec un Français, Jean-Luc Brunel, un ancien patron d'agence de mannequins, accusé d'avoir fourni de jeunes femmes aux financiers américains. Lui est mort dans sa cellule de la prison de la santé en 2022, avant d'être jugé. Vous l'aurez compris, tous ces messages de Siad avec Epstein font référence à des femmes souvent jeunes donc. Daniel Siad envoie des noms, des âges, mais aussi des mensurations, des photos, des vidéos aussi. Par exemple en 2009, avec cette vidéo qui montre pendant plus d'une minute une jeune femme, la vidéo est envoyée à Jeffrey Epstein avec pour seul commentaire de Siad « Je l'ai testé ». Mais alors quel est le rôle de Siad? Dans un échange de 2014, il se décrit lui-même comme un pêcheur. Parfois, dit-il, la prise était rapide, tandis que d'autres jours, il n'y avait pas de poisson. Un pêcheur, un scout, dirait-il en anglais, un chasseur de mannequins, c'est comme ça qu'on dit dans le métier. Il fait des repérages, souvent en pleine rue, en Pologne, en République tchèque, en Afrique du Sud, au Maroc, à Cuba et en Suède, où une femme raconte qu'elle fait là-bas sa connaissance dans les années 80. Cette femme, c'est Ebba Carlson. À l'époque, elle a 20 ans. Au mois de février, elle témoignait sur BFM TV.
Daniel m'a approché avec un groupe de personnes et m'a dit que je pourrais faire une carrière comme top modèle. Et il m'a demandé si j'avais un agent. Moi, j'ai dit non. Il m'a dit « Tu devrais venir à Paris, en France. Moi, j'ai du travail pour toi. »
Ebba Carlson accepte finalement de suivre Daniel Siad à Monaco. Puis toujours selon son récit, il l'attire en France, à Cannes. Il lui promet une carrière dans le mannequinat. Finalement, elle fait le récit d'un viol.
Il m'a dit, j'ai un ami qui a une maison, je lui ai parlé, on peut y aller. J'ai pris mes affaires. Quand on est arrivé, la maison était fermée. Il n'y avait personne. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, on pourra dormir dans la cabane de la piscine. Il a voulu se rapprocher. Et moi, je disais, j'ai un petit copain en Suède, garde tes distances. Mais il continuait encore et encore. Et il m'a violée. Il m'a violée dans cette cabane de piscine. Il y a eu plusieurs incidents. Daniel m'a menacée parce qu'il m'a vu parler à quelqu'un que je connaissais dans la rue. Et là, il m'a menacée de mort. Il a menacé de me tuer. Et forcément, j'étais terrifiée.
Une autre ancienne mannequin raconte, elle, avoir été abordée par Daniel Siad en 2004. Juliette G., elle a 21 ans, elle se promène sur les Champs-Élysées, à Paris. D'après le récit qu'elle fait à BFM TV, Siad lui fait alors miroiter des opportunités professionnelles. Top ! Les choses s'enchaînent. En même pas un mois, il lui organise un voyage à New York. C'est là qu'elle rencontre Jeffrey Epstein. D'après elle, le financier lui confisque son passeport, la place donc dans une sorte de situation de dépendance. Il lui fait subir des attouchements. D'autres témoignages rapportés par la presse attribuent toujours ce même rôle à Daniel Siad, contacter de jeunes femmes sous couvert de mannequinat, de massage, puis faciliter leur rencontre avec Jeffrey Epstein, ce qui relève du viol ou de la traite d'êtres humains. L'avocate Anne-Claire Lejeune assure défendre cette femme ayant porté plainte contre Daniel Siad, mais lui nie tout cela. Il est interviewé sur BFM TV au mois de juin dernier.
J'ai jamais violé quelqu'un de ma vie. Ça déjà, pour dire, ça c'est voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Violé ou agressé sexuellement?
Jamais de la vie, de ma vie, vraiment. Je dis, c'est pas seulement ça, j'ai une éducation. Vous pouvez imaginer, d'un jour à l'autre comme ça, de surtout avec tout ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait pendant des années, on me traite de rabatteur. Je suis plutôt une personne spirituelle. Pour les gens qui me connaissent, je suis vraiment quelqu'un de très spirituel. J'ai même peur de faire mal à une moustique, tellement que je suis tellement de... Non, je ne suis pas... J'étais marié et je n'ai jamais sorti avec un mannequin de ma vie.
Quant à sa relation avec Jeffrey Epstein, Daniel Siad décrit une relation de travail, rien d'autre, même lorsqu'il se rend dans l'appartement parisien du milliardaire Avenue Foch, lieu qui fut le théâtre de crimes sexuels.
Quand il venait à Paris, quelquefois, j'organisais des castings, justement, pour Victoria's Secret.
Donc combien de jeunes femmes vous lui avez présentées?
Je pense que pas plus d'une dizaine de Françaises et des étrangères.
Donc ce qui s'est passé dans l'appartement et ce qui est décrit par certaines jeunes femmes?
Oui.
Agression sexuelle, viol, vous n'avez pas vu?
Jamais, jamais. Il était jamais, jamais ça s'est passé quelque chose avec moi, ma présence. Je vais avec le mannequin, je sors avec le mannequin.
Attention, Daniel Siad n'a jamais été poursuivi par la justice, jamais inquiété. Mais lorsqu'on lui demandait s'il était prêt à répondre à une convocation...
J'attends que ça, je suis là, je ne me cache pas. J'attends confronter la justice française, au contraire. Là, on
vous êtes prêt à rencontrer ces jeunes femmes qui vous accusent?
Absolument.
Et à ces cinq femmes?
Absolument, absolument. C'est tout à fait normal. Je suis là pour ça, à 100%.
Aujourd'hui donc, Daniel Siad est mort. Il ne pourra plus être entendu, plus être inquiété. Mais Maître Menia Raptigrine, son avocate, dit elle aussi qu'il n'attendait que cela, pouvoir s'expliquer si on le lui demandait.
Il avait décidé de s'installer définitivement à Paris, et par définitivement, je veux dire qu'il ne voyageait plus depuis les premières émissions à charge le concernant. Lui, il avait décidé de se tenir complètement à la disposition de la justice.
Quant à sa mort, l'avocate juge qu'elle est...
extrêmement surprenante, puisqu'évidemment, en tout cas, moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était en pleine forme. Et moi, je vous dis, je l'avais régulièrement en ligne. Il a jamais été question d'idées noires. Ce qui comptait pour lui, c'était, quel que soit le temps que cela mettrait, qu'il soit innocenté par la justice française.
Du côté des victimes, on regrette cette mort et on dénonce les lenteurs de la justice.
J'ai honte de notre justice aujourd'hui.
Mathias Darmon, avocat de l'association Innocence en danger.
J'ai honte de la lenteur de notre justice. C'est incompréhensible que ce monsieur soit mort sans jamais avoir été inquiété, jamais avoir été entendu, ni auditionné. Et c'est absolument scandaleux pour les victimes qui se sont réveillées ce matin, en se disant « j'aurai jamais de procès, je ne serai jamais considéré comme victime par la justice française ».
Bonjour Emmanuel Andréani.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine Society, dans lequel vous avez co-signé une enquête sur Jeffrey Epstein, intitulée « Epstein, ce que vous n'avez jamais lu » avec votre collègue Anthony Mansu, une enquête qu'on peut retrouver en librairie. Daniel Siad, vous l'avez eu au téléphone pour cette enquête et vous décrivez un fantôme. Quel homme était-il ?
En fait, nous, on a eu le nom de Daniel Siad assez tôt dans notre enquête qu'on avait démarrée en septembre, parce qu'il était déjà identifié à la fois dans l'enquête américaine et dans l'enquête française comme un des rabatteurs présumés principaux de Jeffrey Epstein après sa condamnation en 2008, mais aussi dès les années 90. Et on a cherché à le joindre pendant des mois et des mois. On avait son nom et son identité depuis l'automne dernier. On a passé énormément de coups de file à travers le monde, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc qui est de nationalité suédoise, mais qui a vécu à Cuba, qui a vécu dans d'autres endroits et qui avait des connexions un peu partout dans le monde. Donc on a parlé à des anciens associés, des jeunes femmes qu'il avait recrutées, des agences de mannequins, etc. Et c'est un fantôme dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment été employé par une agence de mannequins à formellement parler. C'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui avait une espèce d'identité un peu multiple. Ce qu'on sait de par les victimes qui l'ont croisé et qui sont formels là-dessus, c'est qu'il avait aussi plusieurs identités. Il ne se présentait pas toujours sur le même nom. Et d'ailleurs, Daniel Siad n'était pas vraiment son vrai nom. Son vrai nom, c'est Amar Siad. C'était un personnage assez énigmatique, assez complice présumé encore, hein, parce qu'il n'a pas été jugé, mais complice présumé assez idéal pour quelqu'un comme Jeffrey Epstein qui avait à cœur de passer sous les radars de la justice.
Ouais, d'ailleurs, il ne sera jamais jugé. L'action publique s'éteint évidemment avec sa mort. Mais je m'accroche à ce mot de fantôme que vous utilisez. On a entendu sa voix dans le récit. On a entendu la façon dont il se défend à la fois de s'en être pris lui-même à des femmes et de les avoir recrutées pour les offrir en quelque sorte à Jeffrey Epstein. Comment est-ce qu'il a été lorsque vous avez parlé avec lui ?
Il a tenu vraiment la même ligne de défense. Je pense que l'interview qu'on a faite avec lui, c'était l'une des premières où il acceptait de parler à des journalistes. Il avait cette ligne de défense consistant à dire qu'il ne savait pas ce qu'il arrivait aux jeunes femmes qu'il avait recrutées ou qu'il avait présentées à Jeffrey Epstein plutôt dans ces termes. Nous, ce qu'on sait en fait, c'est que à chaque fois qu'il présentait une jeune femme à Jeffrey Epstein, ce n'était pas toujours à des fins de mannequinat. Lui, son argument, c'était de dire qu'il pensait que Jeffrey Epstein dirigeait une agence de mannequins. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que Jeffrey Epstein n'a jamais dirigé d'agence de mannequins. C'est d'ailleurs toute la défense de son ancien associé décédé lui aussi, Jean-Luc Brunel, hein, c'était de dire que Jeffrey Epstein n'avait jamais été associé ou n'avait jamais financé directement une agence de mannequins. Donc c'est un petit peu contradictoire parce que là on a un individu au contraire qui connaissait très bien Jean-Luc Brunel, hein, qui a travaillé pour Jean-Luc Brunel. Daniel Siad a été proche de Brunel et de Jeffrey Epstein dès les années 90. On a quelqu'un qui nous dit que lui, en revanche, il recrutait des jeunes femmes pour des fins de mannequinat en pensant que Jeffrey Epstein était le patron d'une agence de mannequins et de Victoria's Secret, ce qu'il n'a jamais été. Et deuxièmement, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il présentait des jeunes femmes, ce n'était pas que pour des fins de mannequinat. Parfois, il leur faisait miroiter un poste d'assistante à Wall Street, il leur parlait de rôles dans le cinéma. On a le sentiment, en fait, dans notre enquête, ce qui ressortait, c'est qu'il s'adaptait à chaque victime pour les convaincre de rencontrer Jeffrey Epstein et qu'une fois qu'elles étaient présentées, il s'esquivait, il disparaissait du tableau complètement, peut-être pour ne pas savoir ce qui se passait, mais nous, on a quand même 30 ans au moins d'association, de contact entre les deux hommes et de présentation de jeunes femmes. On a du mal à croire qu'il n'ait jamais eu aucun retour sur ce qui se passait après.
Vous parlez de Jean-Luc Brunel avec Daniel Siad et Jeffrey Epstein. Forcément, ils forment à eux trois une sorte de triangle de relations dans ce volet français de l'affaire Epstein. Pourquoi est-ce que la France tient une place si particulière dans cette affaire ?
C'est important, vous avez raison de le dire. La France était vraiment la base arrière de Jeffrey Epstein, notamment après sa première condamnation, quand il était grillé aux États-Unis d'une certaine façon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait tout le temps des histoires qui ressortaient. Il y a Virginia Giuffre qui a témoigné dès les années 2010. Donc la France était à la fois un havre de paix et de tranquillité pour Jeffrey Epstein, mais c'était aussi par là que s'organisait le recrutement de jeunes femmes, parce qu'il était donc lié avec Jean-Luc Brunel et qu'il y avait Daniel Siad qui lui présentait des jeunes femmes depuis l'Europe. Daniel Siad était basé en Europe et il voyageait énormément, notamment en Europe de l'Est. Nous, on a des contacts avec des journalistes polonais et des journalistes tchèques qui ont retrouvé beaucoup de jeunes femmes qui ont été présentées à Jeffrey Epstein via Daniel Siad. En fait, nous, ce qu'on avait déterminé dans notre enquête, c'est que Jeffrey Epstein venait à Paris dès les années 80 et on a pas mal de victimes, notamment américaines, qui le placent chez Jean-Luc Brunel dans des dîners très interlopes où il y a beaucoup de très jeunes femmes et beaucoup d'hommes beaucoup plus âgés, où il y a de la drogue, etc. Jeffrey Epstein, dans cette ambiance de Paris, des agences de mannequins, de boîtes de nuit, etc., était déjà présent dans les années 80. C'est un pays où il est allé de plus en plus souvent, où il a aussi tissé des amitiés politiques, des amitiés business, etc. Donc la France, c'est vraiment un pays central hein, dans son opération, à la fois en termes de trafic sexuel et à la fois en termes de business et de relations de pouvoir.
Aujourd'hui, Daniel Ciad est donc mort. Il n'a jamais été poursuivi. Il y a tout de même eu ses plaintes. Il a, à minima, on le comprend, été témoin dans cette affaire. Et pourtant, il n'a jamais été entendu, Daniel Ciad. Comment ça se fait? Comment est-ce que vous l'expliquez?
On a du mal à s'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été ouverte en France après la mort de Jeffrey Epstein, parce qu'il y avait donc sa proximité avec Jean-Luc Brunel, aussi Ghislaine Maxwell, qui était de nationalité française, etc. Donc les autorités avaient ouvert une enquête judiciaire qui avait conduit à la mise en examen pour viol de Jean-Luc Brunel et à l'ouverture d'une information judiciaire pour trafic d'êtres humains.
Là, on est en 2019.
Voilà, c'est ça. C'est une enquête qui s'est achevée en 2022 en raison du suicide de Jean-Luc Brunel. Mais déjà à l'époque, le nom de Daniel Ciad était sorti dans les auditions des victimes, qu'il avait pointé comme étant la personne qui les avait recrutées pour les présenter à Jeffrey Epstein. Et surtout, il y avait des enquêteurs qui travaillaient sur ce dossier qui étaient très frustrés au moment où le juge d'instruction a décidé de fermer l'enquête. Selon les enquêteurs, ils auraient pu continuer à s'interroger sur Daniel Ciad qui semblait jouer un rôle important. Il y a eu cette première, on va dire, erreur peut-être, ou je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'erreur, mais en tout cas, il n'a pas été inquiété à ce moment-là. C'est quand même hallucinant quand on connaît le rôle qu'il aurait eu, en tout cas dans l'opération de Jeffrey Epstein.
Lorsque le ministère américain de la Justice a diffusé de nombreux documents sur l'affaire,
le nom de Ciad était quand même devenu incontournable, il est absolument partout. Par ailleurs, les avocats américains connaissent son nom depuis au moins 2016-2017. On s'attendait tous à ce qu'il soit peut-être pas mis en examen directement, mais au moins entendu en tant que témoin, dans un premier temps. Alors, voilà, c'est les procédures judiciaires qui prennent du temps, etc. Mais étant donné l'attention médiatique et surtout l'attention du public qui est très révolté par cette affaire, qui donne lieu à tout un tas de scandales et peut-être parfois d'exagérations, de méfiance et de complots, peut-être dans tous les sens, il aurait été quand même peut-être un peu logique d'essayer d'avoir cet homme qui est un témoin clé dans la vie de Jeffrey Epstein, mais aussi dans toutes les dérives du monde du mannequinat, dans lequel il a officié depuis les années 80.
Qu'est-ce que sa mort empêchera de savoir? C'est un peu la question impossible, mais qu'est-ce qu'on ne saura pas parce qu'il n'a pas été entendu et parce qu'il ne pourra plus parler?
Y a tout un pan du fonctionnement de la pyramide de la prédation qui est hallucinante, qui avait été mise en place par Jeffrey Epstein, qui ne va pas pouvoir être élucidée, puisque c'est lui qui présentait énormément de jeunes femmes à Jeffrey Epstein, qu'il y avait aussi les assistantes de Jeffrey Epstein qui étaient mêlées à toute cette opération de trafic sexuel. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu des liens avec lui pendant plus de 30 ans. Donc après, ils n'étaient pas proches dans le sens amis ou quoi que ce soit, et c'est quelqu'un qui restait vraiment dans l'ombre, qui n'a pas côtoyé des amis puissants de Jeffrey Epstein. En revanche, nous, ce qui nous intéressait à ce stade-là de notre enquête, c'était de se poser la question qu'on avait commencé à répondre, qui était si Daniel Ciad a recruté des jeunes femmes pour Jeffrey Epstein, pourquoi n'en aurait-il pas recruté pour d'autres personnalités? Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jeffrey Epstein n'est pas le seul client de ces opérations de trafic. Donc, la mort de Daniel Ciad laisse beaucoup de questions en suspens.
Il y a donc effectivement ce qu'a pu faire Daniel Ciad pour d'autres, et puis il y a au cœur de tout cela, Epstein, comment est-ce que l'enquête peut encore avancer autour de lui? Jeffrey Epstein, lui, il a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, Jean-Luc Brunel en 2022 en France. Aujourd'hui, c'est Daniel Ciad qui est mort. Comment est-ce qu'on peut avancer, continuer à trouver des informations avérées alors même que l'ensemble à la fois de ces informations et de ces morts nourrit, vous le disiez, des théories complotistes, conspirationnistes?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il reste aujourd'hui 2 millions de documents qui n'ont pas été publiés par le département de la justice américaine. Donc, il se peut que dans ces documents, il y ait des nouvelles informations. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ces documents. Si ça se trouve, c'est des documents qui ont été jugés sans intérêt à juste titre. Si ça se trouve, c'est des documents très sensibles qui n'ont pas été publiés pour les mauvaises raisons. Donc ça, vraiment, personne n'a aucune idée à part les gens qui les détiennent. Ensuite, il y a quand même le Congrès américain qui mène des auditions en ce moment, notamment sur les liens de Jeffrey Epstein avec d'éventuels services secrets étrangers, etc., ou avec des différents pouvoirs étrangers. Il y a des gens qui sont auditionnés, qui ont côtoyé Jeffrey Epstein aux États-Unis. Donc, on peut avoir des réponses là-dessus. Il y a quand même de plus en plus de victimes qui parlent. Il y a une jeune femme qui a été violée pendant très longtemps, au moment où Jeffrey Epstein était soi-disant en prison pour sa première condamnation. Et en fait, la journée, il violait des jeunes femmes. Donc, il y a un témoignage qui a été sorti l'autre jour par CNN.
Rose Gilles, une ancienne mannequin.
Exactement. Et donc, il y a de nouveaux témoignages qui sortent. Mais c'est vrai que ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a Jeffrey Epstein est mort, Brunel est mort, Sia est mort, Virginia Roberts Jeffrey, qui était sa principale accusatrice, recrutée quand elle était mineure dans le golfe de Mar-a-Lago de Donald Trump, et s'est suicidée en avril 2025. Ça commence à faire beaucoup de gens qui meurent un peu avec leurs secrets. Donc ça contribue à juste titre à créer une méfiance du public. C'est pour ça qu'on aurait aimé que judiciairement cette affaire soit peut-être prise en compte de façon un peu plus prioritaire, aussi pour des questions de transparence, on va dire.
Merci Emmanuel Andréani, et je rappelle le titre de votre enquête, Epstein, ce que vous n'avez jamais lu, c'est disponible dès maintenant en librairie, et c'est vrai que ça fourmille de témoignages, c'est évidemment passionnant. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, Annelle Aubeuf qui m'aidait à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.